Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour. Quand une ville est dévastée, quand les victimes, morts, blessés ou disparus se comptent par milliers, quand les habitants sont à la rue, que les produits de première nécessité risquent de manquer, à quoi sert la culture? Nous sommes ce matin en direct de Beyrouth avec des artistes libanais. Quels dégâts dans les musées, les librairies et aussi dans les âmes? Culture Média au plus près du Liban, ce matin encore. Du côté des indispensables, Fred Goati se penche sur l'ancien chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, anime maintenant un podcast. Et puis première page, vous découvrirez en fin d'émission le début de La fièvre de Sébastien Spitzer apparaître chez Albin Michel. Culture Média en direct jusqu'à 11h, où que vous soyez, belle matinée à vous. Vous attendez le journal de la culture? Bah, il suffit de demander. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, les stars de demain. Trois sujets de discussion, un album punk, un braquage olé olé, des rockettes qui ne dansent plus et une icône de la pop.
D'abord, cette liste de nouvelles stars à suivre de très près selon le magazine américain Variety.
Oui, chaque année, la première semaine d'août, la bible du show business Variety met en lumière des jeunes talents. C'est un magazine américain. Ils peuvent venir de la musique, du cinéma ou des réseaux sociaux et généralement, les choix de Variety sont assez bluffants. L'acteur Timothée Chalamet, mais le casting de la série Stranger Things ou encore la chanteuse Billie Eilish en ont fait partie. Et cette année, la liste est une fois de plus éclectique et surprenante. Elle a été dévoilée hier. Alors on y croise entre autres la tiktokeuse Charlie D'Amelio, la drag queen Aquaria ou encore la chanteuse Dua Lipa. Mais trois nouvelles stars tirent vraiment leur épingle du jeu. Variety nous conseille de suivre attentivement la carrière de la jeune Shira Haas, une actrice qu'on avait découverte pendant le confinement avec la série Unorthodox sur Netflix.
Ah bah oui, ça y est.
Elle était magnifique. Elle était extraordinaire. Autre nouvelle star à être saluée par le magazine, le chanteur colombien Maluma, je vous en parlais il y a quelques jours. Et enfin, il y a la rappeuse Megan Thee Stallion, je ne sais pas si vous la connaissez Pascal.
Mais alors du tout.
Ben, ça tombe bien, je vous propose d'écouter son dernier single, ça s'appelle Girls in the Hood. J'espère que vous aimez le rap. They wanna hurt me, I'm a hot girl, I do high shit, I do finish income, on my outfit, I don't sex quick, cause I ain't thirsty.
Voilà, elle est recommandée par Variety. Il s'agit d'apprendre à dire son nom simplement. Megan Thee Stallion.
Thee Stallion, oui. Ouais, elle a fait plein de choses avec Beyoncé notamment.
Ah, ok. Ouais, non, on poursuit avec trois news en vrac.
Oui, des informations pas forcément essentielles, mais qui vous permettront peut-être de lancer une conversation tout à l'heure à la machine à café, sur votre lieu de travail ou ce soir quand vous irez dîner chez vos amis en ville.
Conversations à la machine à café. Vous parlez beaucoup, vous, à la machine à café?
Ouais, moi j'ai plein de discussions à la machine à café.
Alors,
c'est une news en vrac. Info numéro 1. Sean Penn, 59 ans, vient de se marier avec Leila George, une actrice de 28 ans. L'union a été célébrée via l'application Zoom. Seuls trois invités ont participé à ce mariage en visioconférence.
Mais Tony Parker divorce. Non, si vous voulez, par là.
On va pas faire tout carnet. Info numéro 2. Nicolas Sarkozy est en tête des ventes cette semaine avec son livre Le temps des tempêtes. Il est talonné de près par les écrivains Joël Dicker, Guillaume Musso et Cyril Lignac, qui obtiennent respectivement la deuxième, troisième et quatrième place du classement, selon Livre Hebdo. Et enfin, info numéro 3. Ah ouais, écoutez ce générique. Après une pause de 30 ans, la série Madame est servie va faire son grand retour. C'est Tony Danza, alias Tony Micheli, qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Alyssa Milano, qui jouait sa fille Samantha dans la série, sera aussi de la partie. Voilà, c'était trois news en vrac. Vous en faites ce que vous voulez maintenant.
Bah peut-être.
On va en discuter à la machine à café.
Oui, ou s'éventer avec parce qu'il va faire très chaud.
Oui, peut-être aussi.
On continue en musique avec un groupe anglais qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, les Fontaines D.C.
Oui, ce groupe, il est constitué de cinq garçons qui nous viennent d'Irlande, de Dublin plus précisément. Depuis leur premier album sorti l'année dernière, ils sont un peu devenus les nouvelles coqueluches de la presse musicale. Leur truc à eux, c'est le rock. On peut même parler de style post-punk. Ils ont de l'énergie à revendre. La production de l'album est ultra brute et en même temps, on n'est pas du tout dans le démonstratif. C'est assez impressionnant. Leur album, il s'appelle, alors là, je vais me planter, ça je suis sûr, Heroes Death.
Non, parfait.
Ouais, parfait, parfait. Ils se sont un peu calmés quand même par rapport à leur précédent album, mais ça reste quand même très 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 revigorant. Moi je crois que c'est pas mal pour ce début de matinée. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Ça s'appelle Televised Mind, les Fontaines d'ici.
Dont... Il y a des pièges partout dans le titre.
Vous me rappelez le titre de l'album?
Non, ça va.
Allez
Heroes Death.
Bon, facile.
Ouais. Televised Mind.
À Paris, les fans de la Casa de Papel vont enfin pouvoir effectuer le braquage de leurs rêves.
C'est un jeu de rôle qui était prévu au mois d'avril, mais qui a dû être repoussé en raison du confinement. Alors si vous êtes intrépide comme Tokyo ou Berlin, ou si votre truc à vous c'est de tout diriger avec panache, comme le professeur et le professeur, cette nouvelle devrait vous ravir. En octobre prochain, la prestigieuse Monnaie de Paris va servir de décor à un escape game inspiré de la série Netflix. Au détour de ce braquage, vous croiserez probablement, enfin de manière virtuelle, les acteurs de la Casa de Papel qui ont participé à l'élaboration du projet. L'expérience, elle va durer une heure et les places seront en vente sur le site feverup.com. La billetterie ouvre ses portes le 18 août, mais alors attention, il y a déjà du monde en liste d'attente, donc bonne chance pour décrocher votre ticket d'entrée. Ouais, c'est un gros succès. En attendant, vous pouvez toujours vous confectionner un masque avec les célèbres moustaches de Salvador Dali, puisqu'il faudra bien évidemment respecter les consignes sanitaires. Et pour info, attention, mauvaise nouvelle, les créateurs de la série viennent d'annoncer que la 5e saison de la Casa de Papel, actuellement en tournage, sera aussi la dernière. Tristesse. Je sais que vous aimez la Casa de Papel. Ouais, vous devez être très triste.
Non, on est au bout en même temps là.
On arrive un peu au bout.
Mais peut-être que le professeur, on le retrouvera ailleurs.
Un spin-off. Il faudra faire quelque chose.
Un spin-off ou un préquel. Il paraît que Juan Carlos vient de s'inscrire à l'escape game. Ouais. Alors à New York, les Rockets ne danseront pas cet hiver.
Les Rockets, c'est une institution aux États-Unis. Imaginez, c'est un peu comme les danseuses du Moulin Rouge, mais avec un peu moins de French cancan et beaucoup plus d'entertainment à l'américaine. Elles chantent, elles dansent, elles se déguisent. Leurs chorégraphies sont assez spectaculaires. Et tous les ans, à Noël, les Rockets donnent rendez-vous aux New-Yorkais dans la prestigieuse salle du Madison Square Garden. Plus de 75 millions d'Américains ont vu un spectacle des Rockets depuis la création de la compagnie en 1933. Et cette année encore, les Rockets devaient se produire du 6 novembre au 3 janvier. Oui, mais voilà. Le spectacle est annulé et la faute à qui? Je vous le donne en mille. Une fois de plus, la faute à ce satané coronavirus. Évidemment, ce changement de programme a des conséquences calamiteuses. La société qui gère les Rockets vient en effet d'annoncer 350 licenciements, soit un tiers de ses effectifs. Les New-Yorkais devront donc attendre 2021 pour retrouver leur danseuse préférée. C'est la première fois en 87 ans d'existence qu'un spectacle des Rockets est annulé.
Merci beaucoup Damien Caprespine. Merci. Le journal de la culture chaque matin. À demain.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Le Liban croyait avoir tout connu, tout enduré, tout, la guerre, longtemps, l'instabilité politique, les assassinats, la corruption de ses dirigeants et dernièrement cette double peine, la faillite du pays partant de coronavirus. Le Liban en avait déjà beaucoup vu, mais avant-hier, l'apocalypse s'est invitée à Beyrouth. Dans Culture Média, ce matin, nous sommes avec des artistes libanais. Ils sont nés au Liban, ont grandi à Beyrouth et forcément, leurs créations se nourrissent de toutes ces cicatrices. Mais quand une ville devient gravat, que les victimes se comptent par milliers, morts et blessés, que la quasi-totalité de ses habitants n'a plus de toit, que la pénurie alimentaire guette, que la pauvreté est déjà là, que peut bien la culture. Bonjour à vous, Johanna Hadji Thomas.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Beyrouth où vous vivez la moitié du temps avec votre mari, Khalil Joresh, que je salue aussi. Bonjour Khalil.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux des artistes très renommés, cinéastes, vidéastes, photographes, plasticiens. Vos travaux sont présentés dans le monde entier. Johanna, comment vous sentez-vous ce matin au surlendemain de cette explosion qui a ravagé la ville? Quel mot pour décrire votre état?
La sidération.
Toujours?
Toujours. Et on arrive très mal à vivre ce choc, en fait. D'abord parce que nous l'avons vécu physiquement et que nous avons encore les séquelles de cette explosion qui était inouïe. Et ensuite parce que l'ampleur des dégâts est tellement incroyable qu'on ne sait pas très bien par où commencer.
Mmh. Vous avez été blessé vous-même?
Non, j'ai pas été blessé. J'étais dans un café à la rue Jemaisé et j'ai entendu une sorte d'avion Donc je me suis retournée, recroquevillée, parce que ça m'a un peu rappelé certains bruits qu'on entendait pendant la guerre, et l'explosion a eu lieu. Je n'ai miraculeusement rien eu. Mais après, on sort dans la rue et on est comme dans un film apocalyptique, un film catastrophe, et on est hébété.
Khalil Jorège, votre atelier a été complètement détruit, et bon, fort heureusement, vous n'y étiez pas. Est-ce que la colère fait aussi partie de votre ressenti ?
C'est pas de la colère encore, c'est de l'hébétement, dans le sens où nos sentiments sont très complexes.
Je crois que nous avons un problème de ligne avec Khalil. Est-ce que Johanna, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Je vais dire à Khalil de venir vers moi.
D'accord.
Oui, en fait, la rage, moi je suis très en colère,
ouais.
En même temps. Mais ce sont des sentiments qui sont complexes. Vous voyez, on n'arrive pas à comprendre déjà. Il faut, dans un premier temps, réaliser ce qui s'est passé. C'est tellement gigantesque. Ensuite, il y a une colère qui gronde en nous depuis déjà très longtemps, et là, elle arrive à son paroxysme, parce que ça ne se passe pas comme ça, une explosion. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui a pu la provoquer. Beaucoup d'entre nous ont entendu un avion. On ne sait pas, on comprend pas. Oui, c'est compliqué.
Ah, vous voulez dire que la thèse accidentelle n'est pas la seule possible ? C'est ça que vous êtes
je
en train de dire ?
Je ne sais pas, je ne sais rien. Mm-hmm. Moi, je ne sais rien. Je dis simplement que sur la rue de Jemaisé, où on était, beaucoup d'entre nous, on a entendu un avion ou une sorte de grondement qui ressemblait à un avion. Donc, on se pose aussi beaucoup de questions.
Restez en ligne, s'il vous plaît. Je salue aussi, toujours en direct de Beyrouth, la romancière, essayiste et journaliste Carole Daguerre. Bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez régulièrement sur votre pays. Vous êtes notamment l'auteur d'une trilogie sur le Liban moderne. Vous aussi, Carole Daguerre, vous êtes à ce stade toujours sidérée, abasourdie ?
Oui, absolument, certainement. Je suis là en visite pour voir ma mère qui est malade. Et donc, notre appartement, on est à Chrafiel, l'appartement de ma mère a été à moitié soufflé. C'était quelque chose... Moi, je suis une enfant de la guerre, j'ai grandi pendant la guerre. Donc, les bombes, les mortiers, les voitures piégées, je connais. Toute ma génération a vécu ça. Mais ce que nous avons eu il y a 2 jours, jamais connu. C'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement. Le tremblement de terre, explosion apocalyptique, les dégâts qui ont eu lieu dans notre rue et dans toute la région d'Achrafieh n'ont jamais eu lieu pendant la guerre. Donc on y est effectivement hébété. Il y a la colère et puis beaucoup de questionnements sur les responsabilités. Et au-delà, moi qui ai beaucoup écrit en tant que journaliste et essayiste politique sur le système libanais, je suis en colère pas seulement contre les non-dirigeants qui sont au pouvoir, mais contre nous-mêmes en tant que peuple, pour essayer de comprendre comment une société aussi créative, aussi dynamique, aussi extraordinaire par l'apport artistique, culturel, intellectuel, a pu laisser arriver au pouvoir des gens aussi incompétents et aussi irresponsables. Mm-hmm. C'est une question qui se pose pour des intellectuels et pour des penseurs, et pour toute la société.
Effectivement, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup, beaucoup de sentiments qui se bousculent. Restez là, s'il vous plaît, Carole, Johanna, Khalil. On revient, on va parler de votre pays, évidemment, tel qu'il vous inspire aussi, qu'il vous permet d'écrire, de créer, malgré tout, malgré les plaies et les cicatrices. Nous marquons une petite pause, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes en direct de Beyrouth avec des artistes. Carole Daguerre, qui est essayiste, romancière, elle écrit sur son pays, le Liban. Johanna Hadji et Khalil Jorège, qui sont tous deux artistes totaux. Des films, des installations, des œuvres inspirées par le Liban. Vous êtes là, Johanna ?
Oui, je suis là.
Je voulais qu'on parle de cette image terrible, cette seconde explosion qu'a ravagé votre ville, Beyrouth, cette boule de feu et de produits toxiques. Qui voyez-vous c'est la métaphore de quoi, finalement?
Je ne sais pas si c'est une métaphore de quelque chose. Je pense que c'est surtout une catastrophe extraordinaire qui s'est abattue encore sur le Liban. Je ne la... Pour le moment, c'est très compliqué de projeter quelque chose, vous voyez, métaphorique mm-hmm. sur tout ça. Je crois que c'est le moment de beaucoup de questionnements, beaucoup de peut-être un peu. Quand je suis d'accord avec Carole, il y a beaucoup d'autocritiques qui devront être faites, mais pour le moment, c'est surtout on est en état d'urgence absolue. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut qu'on aille d'abord déblayer nos maisons, nous, notre appartement, notre atelier, tout a été soufflé. Mais après ça, il faut aller aider les gens. Il y a 300 000 habitations qui ont été soufflées, donc détruites partiellement ou totalement. Donc, je crois que là, pour le moment, on est tous un peu dans un état d'urgence. Il faut aider, il faut comprendre un peu comment on va se réorganiser pour des questions de survie, déjà. Puis après, on verra bien. Vous voyez, ça, je pense qu'il y a plusieurs étapes et qu'il faut aussi gérer le traumatisme. C'est quand même une explosion. Comme disait Carole, on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai vécu toute la guerre mm-hmm. du Liban. Je n'ai jamais vu ça. Donc, et on dit que c'est la troisième plus grosse explosion au monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Et on a besoin d'aussi ce... C'est un trauma pour beaucoup. Il faudra aussi à un moment l'adresser. Après, bien sûr, il y aura les questions d'autocritique, de politique qui viendront ou qui se mêleront, qui sont déjà là, mais qui, pour moi, pour le moment, c'est surtout un état d'urgence humanitaire.
Exactement, on en est là pour l'instant puisqu'il y a encore des gens à sauver, des disparus, il y a encore des blessés dans les hôpitaux qui probablement manquent de tout. Et puis, effectivement, ces gens à la rue, vous constatez une solidarité maximum quand même, Johanna ?
Je constate une solidarité formidable, en tout cas autour de moi, dans la rue où je vis. C'est une rue qui était totalement dévastée et les gens sont là, ils nettoient la rue, des volontaires donnent à boire aux gens, essayent de les aider, des jeunes, des gens de partout viennent spontanément pour aider. Donc ça pour moi c'est aussi très symbolique d'un certain Liban solidaire. Qui peut-être aura beaucoup à faire pour se débarrasser de certains de ses leaders. Mais en tout cas, il y a une solidarité qu'il faudra vraiment préserver pour notre temps de révolte, parce qu'il va venir encore.
On va revenir à la révolte, évidemment, quand elle arrivera. Parmi les nombreux dégâts et les lieux de culture frappés, il y a le Sursoc Musée d'Art Moderne. Nous sommes en ligne avec sa directrice, Zena Arida. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous répondre, Zena Arida. Étiez-vous dans votre musée pendant l'explosion ?
Oui, j'étais là avec trois collègues. Heureusement, on était en train de fermer le musée, donc il était 18h15. Il n'y avait plus de visiteurs, plus de médiateurs culturels, plus de sécurité. Heureusement, parce que le musée a été réellement soufflé. Et mes collègues et moi, on a eu beaucoup de chance parce que moi aussi, j'ai entendu un bruit que j'ai trouvé très suspect, très effrayant, qui était un bruit vraiment subtil. Comme Johanna, je fais partie de la génération de la guerre, je sais reconnaître tout genre d'objets volatiles qui nous ont attaqués dans le passé et j'ai cru reconnaître un avion différent. Et donc, ça nous a un peu sauvés parce que j'ai demandé à mes collègues de s'éloigner. On s'est éloigné des fenêtres et 20 secondes après, on était soufflés, poussés dans les escaliers. On a eu beaucoup de chance parce que le musée est soufflé des deux côtés.
Mmh. On va revenir sur les dégâts du musée, mais Zena, qu'est-ce que vous entendez par un avion différent ?
Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas, j'ai beau lire et les gens ont beau me dire que c'est un accident et qu'il n'y a pas eu d'attaque et que je ne sais pas, je n'arrive pas à oublier le bruit que j'ai entendu qui ne ressemble à aucun bruit, qui ressemble à un objet volant Est-ce que c'est, j'en sais rien. Encore une fois, c'est très difficile à dire. Hein. Je ne veux pas me prononcer,
oui,
mais
sûr.
Moi, je ne peux pas croire à un pur accident.
Est-ce que des œuvres sont endommagées dans votre musée? Il y a beaucoup de dégâts.
Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de, vous savez, le musée est abrité dans, enfin, le musée est en partie abrité par une maison des années début du XXe siècle. C'est un bâtiment classé. Il est maintenant un squelette, c'est-à-dire qu'il y a la pierre, mais il n'y a plus rien d'autre, ni les vitraux, ni les portes, ni les cloisons intérieures, certaines ont sauté, les cages d'escalier ajoutées dans la rénovation, donc métal, vert. C'est un squelette.
Zena Arida, on va s'arrêter là, on reprendra des nouvelles les jours prochains de votre musée, parce que c'est très important évidemment, toutes ces œuvres endommagées, et puis vous-même évidemment, votre intégrité morale et physique. On continue à parler du Liban en direct de Beyrouth dans Culture Média. À tout de suite, ne quittez pas
9h-11h Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours en ligne avec Carole Daguerre. On vous avait perdu un instant, mais on vient de vous retrouver. Vous êtes romancière, essayiste. Nous parlions avec Johanna Hadji Thomas de ce sens de la solidarité, parce que c'est très très important, évidemment. 300 000 personnes qui n'ont plus d'abri. Vous la voyez autour de vous, cette solidarité, Carole Daguerre?
Ah oui, certainement. Cette solidarité, elle est presque dans les gènes, je dirais, des Libanais. C'est elle qui a permis au peuple libanais de traverser les années sombres de la guerre. C'est elle qui leur permet à tous les coups de remonter, de déblayer les rues, de reconstruire. En l'absence d'un État qui est de soutien gouvernementaux, de programmes de solidarité ou de soutien de reconstruction, etc. C'est une société qui est extraordinaire, qui ne mérite pas le non-État, enfin l'État de non-droit dans lequel elle vit.
Oui, c'est ça, on a l'impression
que... Oui, il y a des mouvements, des associations, des ONG qui se mettent en place, puis il y a cet esprit, cette culture de la fraternité spontanée, de l'entraide. Elle est extraordinaire, c'est elle qui sauve le Liban.
Mmh. Quand on pense, là ce sont les faits, mais les faits sont signifiants, quand on pense à ces tonnes de nitrate d'ammonium qui sont stockées depuis 6 ans, me semble-t-il, dans le port, des matières dangereuses, etc. Est-ce que ça en dit long sur la négligence et sur l'incurie des hommes politiques au Liban?
Ben oui, cette explosion, je pense qu'elle est vraiment, elle résume tout. Il n'y a plus de mots pour décrire les abysses dans lesquels les Libanais n'ont pas arrêté de plonger depuis plusieurs années. Il y a eu la crise des détritus il y a 3 ans, 4 ans. Puis, d'année en année, la révolution l'année passée, en octobre, avec la crise économique et monétaire. Et puis, cette explosion qui vient couronner le tout. Hein, c'est vraiment un processus et on a l'impression à chaque fois que c'est un peu Sisyphe. Il faut remonter la pente, pousser le rocher jusqu'au bout et à chaque fois le rocher retombe et chaque fois il retombe plus bas qu'avant.
Mmh, mmh, mmh.
Et à chaque fois, il y a un mouvement qui doit se remettre en place et c'est des générations qui ont à chacun leur lot d'épreuves. Une génération s'épuise, une autre prend la relève. Il y a ceux qui partent, qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont perdu des proches ou parce qu'ils ont perdu leur maison ou leur travail. Et puis il y a la relève. Et on a l'impression que la relève est là pour endurer les nouvelles épreuves et non pas pour reconstruire un État au plein sens du terme.
Mmh.
Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est désespérant. Ça, on se dit, quand est-ce qu'on va enfin retrousser les manches pour reconstruire un État avec des institutions dignes de ce nom? Et voilà. Et moi, je voudrais, en tant que binationale, parce que je suis née au Liban, mais j'ai embrassé la nationalité française, qui est dans ma culture, qui, enfin, pour moi, la France et le Liban sont les deux faces de mon identité. Je voudrais remercier la France et dire combien sa présence, son soutien, toujours indéfectible à tous les moments cruciaux de la vie du Liban. Combien cette présence est vitale et combien elle est importante pour les Libanais, toujours à travers notre histoire. Et voilà, donc c'est un pays, il faut le savoir, hein, c'est l'un des derniers pays où la dignité humaine est encore défendue avec ses droits sociaux, politiques, humains. Et le Liban a voulu calquer ses institutions, son État, sur la Constitution et les institutions françaises. Mmh. Nous avons pris les institutions, mais on en a fait une coquille vide. Mmh. L'esprit des lois si cher à Montesquieu n'est pas encore là.
Carole Daguerre, vous évoquiez il y a un instant la renaissance éternelle de ce pays est obligatoire. On va écouter aussi le sentiment du trompettiste Ibrahim Malouf, joint par Julien Cottreau. Il est évidemment sur cette même ligne, celle d'une résilience obligatoire.
Je ne sais pas comment les Libanais vont se relever, mais ce qui est certain, et je le vois depuis tellement longtemps, le Liban est un pays très résilient, qui a toujours su se construire et se reconstruire à travers le temps et à travers les drames. Selon moi, il n'y a pas d'autre espoir à avoir que celui d'accepter la cicatrice, comme à chaque fois. Je me souviens de 2006, je me souviens de 2004, je me souviens de tout ce qui a rythmé mon enfance et l'enfance de mes parents jusqu'aujourd'hui, l'enfance de mes grands-parents jusqu'aujourd'hui, etc. Et ce sont des drames qui se s'enchaînent et qui sont liés à cette position du pays qui est, en tout cas, semble être définitivement vouée à une instabilité qui est évidemment liée aux intérêts divergents de tout ce qui nous entoure, en fait, de tous les pays qui nous entourent.
Johanna Hadji Thomas, vous venez d'entendre avec nous Ibrahim Malouf. On a le sentiment que le peuple libanais est condamné à cette résilience obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Qu'en pensez-vous ?
Je ne peux pas m'y résoudre, en fait. Je pense même que la résilience est une chose exceptionnelle et très caractéristique du peuple libanais. On en parle beaucoup, mais elle ne doit pas être celle qui nous empêche à un moment de dire « maintenant, ça suffit ». C'est-à-dire, c'est comme on retombe toujours sur nos pieds, c'est vrai, on a une énergie, on a continuellement des façons de nous soutenir, de nous aider, d'être solidaires, de reconstruire. Ça a été pendant la guerre notre grande force d'une certaine façon, mais peut-être qu'à un moment aussi, il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on se dise que des choses changent profondément. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de subir. Ce n'est pas une malédiction. Et je pense beaucoup depuis quelques jours avec Rallier, nous avons fait une vidéo très récemment qu'on a montrée dans une exposition en Corse, au FRAC. Et je pense à ce poème de Seferis qui illustrait cette vidéo, un poème de Georges Seferis où il disait en clôture du poème, nous avons trouvé la cendre, il ne nous reste qu'à retrouver notre vie maintenant que nous n'avons plus rien. Et moi je pense qu'il faut que nous reprenions notre vie à toutes ces personnes qui depuis trop longtemps nous manquent continuellement de respect à notre dignité humaine surtout. Et ça c'est quelque chose qui n'est plus admissible.
Alors effectivement, Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, je précise que vous avez une exposition en cours en Corse, hein, à Corte, au FRAC Corsica. Et son titre, voilà, ça s'appelle « J'ai regardé si fixement la beauté ». Peut-être bien que la beauté est une réponse. Johanna, en octobre dernier, c'est pas si loin. Bon, évidemment, c'était avant le coronavirus, mais il y avait eu cette réaction collective, cette révolution au Liban. Il y avait de l'espoir quand même à l'époque. Et est-ce que ça peut revenir ? Bon, c'est beaucoup trop tôt, on est bien d'accord. Il va falloir d'abord soigner ce pays. Il y a des urgences, comme vous le disiez. Mais est-ce que cette révolution peut renaître ?
Elle est pratiquement obligatoire, je pense. Il faut absolument qu'elle revienne. Bien sûr, ça va être difficile. On a, comme vous disiez, il y a le corona, il y a aussi la fatigue, une fatigue extrême. Les gens s'occupent surtout de savoir comment ils vont pouvoir manger et pour faire fonctionner leur famille. Donc on est dans des problématiques très très différentes, mais je crois qu'elle est obligatoire. C'était un élan extraordinaire. Et cet élan doit retrouver, renaître de ses cendres. Et il faut qu'il... Il y a toujours, en fait, je dis cendres, mais en fait c'est faux. Il y a toujours cette volonté et cette colère chez les gens. Il faut juste qu'on arrive à se rassembler et qu'on arrive à se regrouper. Je pense que quand on aura légèrement panser nos plaies quand on aura nettoyé devant nos portes et enlevé les gravats, les vitres, ces tonnes de vitres qu'il y a dans toute la ville. Je crois que à ce moment-là, on va se diriger dans la rue, se retrouver dans la rue et ça va être obligatoire. Notre colère est trop forte.
Mmh. Pour terminer, Carole Daguerre, vous savez que le président français Emmanuel Macron est dans l'avion en ce moment qui l'amène à Beyrouth. Je crois qu'il atterrira heure locale vers midi, midi et demi. Ça vous touche qu'il vienne ?
Ça me touche beaucoup, oui. Comme je le disais, la France a toujours été présente aux côtés du Liban. Vous savez que cette année 2020 marque l'année du centenaire de la création de l'État du Grand Liban, enfin de la proclamation de l'État du Grand Liban par la France, par le général Gouraud. Il y avait beaucoup de conférences, de festivités, d'événements qui allaient marquer ce centenaire. J'ai moi-même sorti mon dernier roman, L'invité des Médicis, pour remonter à la source de ce rêve qu'est le Liban, cet idéal, avec le prince du Liban, Farhadine II. C'est un rêve et un idéal qui est encore à concrétiser, parce que cette année du centenaire, en fait, le bilan est un état d'échec, un état failli. Et donc, et la France n'a cessé de répéter « faites des réformes, faites des réformes, nous sommes là pour vous soutenir ». Et cette volonté manque toujours. Or, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons à nouveau nous questionner sur comment reconstruire cet État, un État de droit.
Encore et encore.
Et je pense que la France est aux premières loges pour nous aider, à condition que nous nous aidions. Et là, nous avons un rôle, évidemment, en tant que société civile, en tant que créateur, et une réflexion à faire sur le système. Est-ce que le système libanais a produit une telle incompétence, une telle corruption, ou est-ce que ce sont les hommes qui ont pourri le système?
Eh oui. Large voilà, question, effectivement, large interrogation. Merci beaucoup, Carole Daguerre, d'avoir témoigné. Je remercie aussi énormément Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais la ligne n'était pas très bonne. Je remercie aussi Zena Arida, qui dirige le Sursocle, le musée d'art moderne. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. On vous envoie en tout cas toutes nos pensées et du courage et de la force. Merci à vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Avec les indispensables, bonjour Fred Gouati.
Bonjour Pascal Clark,
vous êtes
bonjour
toujours
à tous.
Directeur de la rédaction de Jazz Magazine, ça n'a pas changé,
oui,
d'accord.
Oui.
Alors ce matin, vous avez un plan et même un plante. Le chanteur de rock Robert Plant, qui anime désormais un podcast, ce qui ne l'empêche pas évidemment de continuer à chanter. Il mène une carrière solo depuis que Led Zeppelin s'est séparé à l'aube des années 80. Et Fred, vous nous rappelez quelques épisodes marquants juste avant la compile rétrospective qui va sortir au début de l'automne. Épisode marquant par Fred Gouati.
Alors bon chanteur, évidemment, Robert Plant, c'est un homme de micro. Alors forcément, un jour ou l'autre, il devait faire de la radio.
I'm Robert Plant and this is Digging Deep.
Mais avant de nous livrer régulièrement depuis l'an dernier déjà son podcast Digging Deep, faut-il rappeler que Robert Plant fut le chanteur de Led Zeppelin?
Quand même.
Ah oui, parce que ça fait toujours plaisir.
Vous dites pas Led Zepp, vous?
Si, mais ça c'est pour les intimes, je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas forcément Led Zeppelin, alors on dit Led Zeppelin. Alors souvenez-vous, 69, année érotique, année électrique, Wallota Love, un gamin de 21 ans, hurle son amour fou, à qui veut bien l'entendre? Message compris Robert. Ah bah oui, ouais, bah oui.
Quand même.
Ah, faut ce qu'il faut. Hein.
Ouais.
Ah ouais. Mais attention, Robert le fou d'amour était aussi troubadour romantique à 16 heures. La preuve ultime avec Stairway to Heaven, la chanson la plus demandée des années 70 à la radio. Et oui, la radio, toujours la radio. And she's buying the stairway to heaven. Faites attention Pascal, vous allez rayer mon 33 tours.
J'ai des ongles, excusez-moi.
Si, je vous en prie. Mais oublions Led Zeppelin, allez, le groupe qui ne se reformera jamais. Enfin si, une fois, en 2007, pour un seul concert à Londres, devant 15 000 privilégiés dont je n'étais pas hélas, alors que 20 millions de personnes s'étaient inscrites sur un site internet pour avoir un billet. Alors oublions Led Zeppelin donc, et rappelons que depuis 1982 déjà, Robert Plant vogue en solo. Oh, jamais très loin des Sunlight, non. Les rockstars ont toujours besoin de lumière, mais jamais là, tout à fait là où on l'attend. dans les années 80, il s'est même parfois risqué au bizarre, le garçon, s'imaginant qu'un dieu du rock des 70s pouvait se réinventer rappeur, new wave, électro, enfin quelque chose comme ça. Et puis il s'est souvenu, lui le citoyen du monde sevel devant et aux cordes vocales dorées à leur fin, que les voyages formaient la jeunesse et qui sait, empêchaient de vieillir prématurément. Alors il est allé au Maroc, enregistré avec des musiciens gnawa, en duo avec son guitariste de toujours, Jimmy Page, Jimmy Page, le fondateur de Led Zeppelin évidemment, l'autre tête pensante de ce groupe mythique. Dès lors, l'âge aidant, hein, sa voix devint de plus en plus douce, habitée avec ce je ne sais quoi d'incantatoire, toujours, mais tout en nuance, de l'émotion, toujours plus d'émotion. Surtout quand il s'agit, en 2007, d'enregistrer un album couvert de Grammy Awards avec la merveilleuse chanteuse country, Alison Krauss. Écoutez-le dans les cœurs. Bref. Des histoires de rock, mais pas que. Robert Plant en raconte avec ce qu'il faut de malice et de nostalgie dans son podcast, qui tient donc, porte le même nom qu'une compilation, qui sortira le 2 octobre et retrace en 30 chansons ses fascinants vagabondages post-Led Zeppelin. Et parmi ces chansons, quelques inédites évidemment, dont celle-ci déjà disponible sur les plateformes de streaming, Charlie Patton Highway. Alors écoutez bien les paroles. The radio inside this car brings guidance from above. Qu'on pourrait traduire un peu librement par la radio dans cette voiture nous emmènera loin, très loin, vers l'infini. Et au-delà, bien dit Robert.
Et ça n'a l'air de rien, mais vous écoutez quand même un inédit de Robert Plant.
Oui, qu'on peut d'ores et déjà écouter aussi sur les plateformes de streaming, mais c'est tout chaud, ça vient de sortir.
C'est nouveau. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Fred Goetti, pour cette saga Robert Plant. On dit pas Bob Plant, non, personne ne dit ça.
Non, parce qu'on pourrait le confondre avec d'autres Bob, au moins aussi célèbre que lui. Hein. Non, mais on peut lui parler, il est très sympa. Vous voulez parler foot, hein. Vous savez
c'est
que lui, ouais. Il a son club de cœur.
C'est
bah on le sait, lui, contrairement à vous, on ne sait pas. Mais lui, c'est les Wanderers de Wolverhampton parce qu'il est des West Midlands, le Black Country. Donc, c'est son hometown, comme on dit, son club de cœur.
Merci beaucoup, Fred Goetti. Vous êtes là la semaine prochaine ou vous partez en vacances?
Peut-être, si je vois un peu de lumière, je passerai.
Écoutez, va laisser la lumière allumée alors. Merci beaucoup. Le groupe qu'on va entendre maintenant vient de Las Vegas.
Dis donc.
Ça donne envie d'aller au casino. Imagine Dragons dans Culture Média. Imagine Dragons, Bad Liar. Moi, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. On arrive à première page. Tout l'été, vous découvrez l'entrée en matière des romans qui sortiront généralement en août ou tout début septembre. Vous découvrez en exclusivité leur première page. Et ce matin, voici le début de La fièvre de Sébastien Spitzer apparaître chez Albin Michel. Par pitié, laissez-moi. Il est face contre terre, comprimé par un homme à genoux sur sa nuque. Sa pommette et son front tassent le sable du sentier. Un filet de sang dégoutte sous lui comme la poisse. Combien sont-ils? 4, 5. Tous portent des toges blanches. L'un d'eux pèse sur son dos et lui déboîte les bras, coude au rein, pogne au dos. Ah, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, j'ai rien fait. Un autre lui lie les chevilles si fort qu'il entrave ses artères. Son pouls bute contre le chanvre. Il a la bouche dans le sable et son cri s'y enterre parmi la bave et se branle-bas d'effroi qui coagule. Un homme rôde en retrait, chasseur tapis dans l'ombre. C'est lui le chef de ces mauvais génies en toge qui hantent les campagnes depuis des mois maintenant, semant les cadavres, éparpillant le drame et ravivant l'idée que naître noir est une malédiction. Le reste est à lire éventuellement, hein, si ça vous dit, à la fin du mois, La fièvre de Sébastien Spitzer qui sortira chez Albin Michel. Culture Média d'été en direct. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain à partir de 9h. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parlera de cuisine et peut-être de musée ouvert tout l'été. On ne sait pas encore. Il y a un gros suspense sur l'affaire. À suivre sur, à suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas. À demain.